Donc je vais insister sur cette période de la guerre de sécession 1861-1865. C'est quelque chose qui passionne les élèves quand vous rentrez dedans, en fait. Moi, j'ai beaucoup parlé avec les collégiens sur cette idée que c'est intéressant d'interroger deux types de guerres, parce que surtout, avec, ils ont entendu parler de la Russie et de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a des guerres qui sont en lien avec des frontières, des guerres de territoire. Donc il y en a un des deux qui veut plus de territoire que l'autre. On peut penser à Napoléon en Europe au XIXe siècle, ou la question de la colonisation. Parce que la colonisation, c'est l'Europe qui veut des territoires en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Donc on est dans des guerres de territoire. Okay, frontières communes ou colonisation, on est dans des guerres de territoire. Et puis il y a ce qu'on appelle les guerres civiles, qui sont souvent des guerres idéologiques. Ça veut dire que dans un même pays, des gens s'opposent pour le futur du gouvernement. Évidemment, aujourd'hui, la citoyenneté fait qu'on s'oppose dans les urnes. On n'est pas d'accord, mais on va voter. Sauf que dans l'histoire du monde entier, il y a eu beaucoup de guerres civiles et que ça pose des dégâts sur une ampleur de dégâts particuliers et que souvent, dans la mémoire du pays, c'est lié au fait que ça soit sur son propre territoire. Bien sûr, leur rappeler qu'il y a des guerres civiles qui sont plus récentes que le 19e siècle, qu'il y en a eu au 20e siècle, je pense à la guerre d'Espagne, donc à l'arrivée du dictateur Franco, donc après le putsch militaire de Franco en 1936 en Espagne, donc cette idée de la guerre civile, aussi leur dire que la Révolution française est une guerre civile, c'est-à-dire qu'elle va être la suite du gouvernement. Donc c'est aussi ça, des gens qui s'opposent sur un même territoire pour l'évolution politique. Alors, qu'est-ce que c'est un héros, qu'est-ce que c'est un film de guerre? C'est intéressant parce que c'est le rapport, justement, donc je vous disais, un type de guerre particulier, et qu'est-ce qui fait un héros? Parce que une des choses qui a beaucoup interrogé les collégiens quand j'ai travaillé avec eux sur le film, c'est le fait que le réalisateur, il va faire du héros un sudiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour les États du Sud, donc qui est pour l'esclavage, qui défend l'esclavage. On ne le voit pas dans le film, donc c'est pas une question visible, sauf que c'est un des enjeux de la guerre et de l'évolution de la population des États-Unis et des gouvernements. Qui va amener aussi, évidemment, pour rappel, à la mort du président des États-Unis, de Lincoln. C'est autour de cette question de l'évolution des gouvernements, en lien avec la question de l'évolution ou pas du statut des esclaves dans les États du Sud. Donc voilà, ça veut dire, je leur rappelais toujours, je vais un peu avancer là-dessus, mais je voulais vous le dire d'entrée, ça veut pas dire qu'avant, tout le monde était raciste, puisque pendant le XXe siècle, et à toutes les époques, il y a toujours eu des gens qui ont lutté contre le sexisme et le racisme. La preuve, c'est que dans l'histoire des États-Unis, il y a un film très célèbre qui s'appelle « Naissance d'une nation » de Griffith, qui est un film profondément raciste, qui défend le Ku Klux Klan, et il y a eu énormément de manifestations des Afro-Américains à la sortie du film. Sauf que ça veut dire que c'est possible d'avoir un discours raciste au cinéma. En 2024, c'est plus possible. On leur montre, parce que c'est pas l'enjeu du film, hein, parce qu'il n'y a pas cette question. Mais l'invisibilisation des Afro-Américains du film est une question, et une question qui les interroge, et qui permet de s'interroger aussi comment les films évoluent. C'est-à-dire qu'en 2024, quelqu'un qui ferait du héros un sudiste, ça poserait des questions. Et donc il y a cette question-là qui les intéresse. Donc voilà, pour moi, une des réponses, c'est de dire, ça ne veut pas dire que tout le monde était raciste, hein, la preuve des Afro-Américains ont lutté contre un film célèbre en 1915, mais ça veut dire qu'il y a une évolution des discours collectifs, des discours nationaux. Et ça, pour le coup, c'est une évolution dans le bon sens, puisque il y a des discours qu'on ne peut plus tenir, notamment au cinéma. Donc Buster Keaton, l'autre Chaplin, c'est l'idée aussi que le film, on le montre parce que la question, c'est pas la question de défendre l'esclavage dans le film, même si c'est défendre les États du Sud, parce que le héros en fait partie, mais par contre, c'est revenir à l'histoire du cinéma et à l'importance de ce genre qu'on appelle le burlesque et qui est associé à la vitesse, à la performance, aux courses-poursuites. Là, on voit qu'il y a des choses qui ne changent pas dans l'histoire du monde et surtout dans les plaisirs cinématographiques. Donc les renvoyer, eux, à toutes les courses-poursuites potentielles qu'ils peuvent connaître dans l'histoire du cinéma, qu'ils peuvent apprécier, et là dire que ça va être une énorme course-poursuite entre le mécanicien dans sa locomotive et, en fait, toute une armée ennemie. On va voir comment ça se déroule. Alors, le burlesque des années 20, c'est parce que, voilà, le burlesque classique, c'est un cinéma des États-Unis entre, grosso modo, 1913, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, et le passage au parlant, on va dire, 1930. Donc, on dit les grandes années 20. L'accroche du film à l'époque, c'était Love, donc on va leur dire qu'on ne veut pas que de l'action, on verra comment ça se passe entre le rapport entre lui et le personnage féminin. Locomotive, donc c'est l'idée d'y avoir des actions et avoir des locomotives, et Laos, de rire. Donc aussi voir qu'est-ce qui nous fait rire ou pas aujourd'hui, mais quels sont les mécanismes du rire aussi dans le cinéma muet.